D'un côté, on dispose des technologies capables de modéliser avec une précision chirurgicale les déplacements de millions de téléphones portables.
Oui, pour traquer l'évolution d'un virus, par exemple.
Exactement, en plein milieu de la forêt congolaise. C'est de l'anticipation algorithmique pure. Et d'un autre côté, on se retrouve dans l'incapacité technique et politique totale de localiser ou de retracer 83 vies humaines.
C'est fou.
Des vies perdues sur une petite embarcation à la dérive pendant 27 jours au large des îles Canaries.
Bah, ce grand écart conceptuel y donne le vertige, honnêtement. Ça résume l'immense paradoxe de la capacité des États modernes aujourd'hui.
C'est-à-dire...
En fait, les gouvernements et les institutions possèdent des outils d'une puissance complètement inédite, hein. Ça va de la modélisation de données aux flottes de drones.
Ouais, d'accord.
Mais le truc, c'est que le déploiement de ces outils, il dépend intégralement des priorités politiques du moment. En gros, la technologie éclaire ce que l'on veut bien regarder et elle laisse tout le reste dans l'angle mort.
Eh bien, le dossier d'aujourd'hui plonge précisément au cœur de ces angles morts. Notre exploration, elle s'appuie sur une édition extrêmement riche du journal panafricain Radio Tantam Africa.
Une édition du 4 septembre 2026, c'est ça?
C'est ça. L'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est de relier tous ces signaux faibles et ces gros titres. On va parler de données de santé publique, de chaînes clandestines d'approvisionnement militaire.
Des méga-raffineries aussi, et même des cours de justice.
Absolument. Tout ça pour comprendre comment se redessine la souveraineté sur le continent. Et par souveraineté, on parle autant du contrôle des territoires et des richesses que du contrôle de la mémoire collective.
Gardez sous le capot de l'actualité. Face à la densité de ces événements, il va falloir analyser les mécanismes sous-jacents de ces crises.
Tout à fait.
Et je précise, l'idée centrale ici, ce n'est pas de distribuer les bons ou les mauvais points.
Non, on n'est pas là pour juger les décisions de tel ou tel gouvernement, on reste totalement neutre.
Exactement. Le but, c'est d'observer comment les appareils d'État, face à des défis existentiels ou de formidables opportunités économiques, tentent de consolider leur pouvoir. Et parfois, bah, c'est au détriment direct des populations civiles.
Bon, décortiquons tout ça, entrons dans le vif du sujet avec cette fameuse histoire de traçage en République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola, elle flambe à nouveau.
Ouais, le bilan est lourd, très lourd.
Plus de 6250 cas confirmés et 3039 décès recensés à travers 6 provinces. C'est énorme.
C'est dramatique, oui.
Et pour tenter d'endiguer la propagation, l'Organisation mondiale de la santé s'est associée à une structure nommée Flowminder pour exploiter les métadonnées de l'opérateur téléphonique Vodacom.
Ouais.
Sur le papier, ça ressemble presque à de la science-fiction. Comment ce pistage numérique fonctionne-t-il concrètement?
Alors, le mécanisme d'action... En fait, il repose sur l'agrégation de données de masse et sur l'anonymisation, bien sûr.
Ok, donc on ne suit pas une personne en particulier.
Voilà. À chaque fois qu'un téléphone borne sur une antenne relais, que ce soit pour un appel, un SMS ou juste une connexion Internet, il génère une trace géographique.
D'accord.
Et en agrégeant des millions de ces points de connexion, les algorithmes de Flowminder modélisent la mobilité humaine en temps réel.
C'est impressionnant.
Cette cartographie, par exemple, elle a permis d'identifier que la ville de Kisangani allait inévitablement devenir un carrefour à risque extrême.
Avant même que les hôpitaux ne soient touchés.
Exactement. Avant même que les services hospitaliers ne soient submergés, ils savaient que ça allait arriver là-bas.
C'est vrai que l'anticipation épidémiologique semble fantastique, mais l'article de Radio Tam Tam Africa souligne une déconnexion brutale avec la réalité du terrain.
Ah oui, le chiffre est édifiant.
Sur 97 600 personnes formellement identifiées comme des contacts potentiels par ces systèmes, seulement 19% font l'objet d'un véritable suivi médical physique. Seulement 19%.
C'est très peu.
C'est terrifiant même. C'est un peu comme mettre un pansement de très haute technologie sur une hémorragie qui nécessite des médecins en chair et en os sur le terrain, non ? À quoi ça sert d'installer le système d'alarme le plus sophistiqué du monde si personne ne prévient les pompiers quand la maison brûle ?
C'est la bonne métaphore. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette faille, elle illustre parfaitement les limites du solutionnisme technologique. L'algorithme, il se contente de calculer des probabilités de propagation.
Il ne soigne personne, en gros.
Voilà. Il ne construit pas de lit de réanimation, il n'achemine pas de vaccin et il ne forme aucun personnel soignant.
Ouais.
Et en plus, cette modélisation prédictive, elle se heurte à des angles morts techniques sévères. Déjà, l'analyse, elle repose sur un unique opérateur télécom.
Vodacom, c'est ça?
C'est ça. Et surtout, elle s'arrête brusquement aux frontières nationales en ignorant totalement les migrations transfrontalières. En fin de compte, l'alerte numérique n'a de râleur que si l'autorité de l'État dispose d'une logistique physique pour intervenir.
Et justement, cette absence de logistique étatique bienveillante pour protéger les civils, ça nous transporte vers un autre théâtre de crise où la technologie montre un tout autre visage.
Au Soudan ?
Au Soudan, oui. Là, l'innovation, elle déshumanise complètement le conflit. Les derniers rapports de l'ONU font état de plus d'un millier de morts civiles en seulement 5 mois en 2026.
Un millier de morts civiles ?
Oui, et la cause principale ? Des frappes de drones. Elles sont menées à la fois par l'armée régulière soudanaise et par les forces de soutien rapide.
Et elles ne visent pas que des objectifs militaires, malheureusement ?
Pas du tout. Des hôpitaux, des écoles, des marchés et des camps de déplacés sont carrément pulvérisés.
C'est parce que le recours massif aux drones armés modifie l'architecture même de la guerre asymétrique. Historiquement, tu vois, tenir ou assiéger une zone urbaine, ça nécessitait d'engager massivement de l'infanterie.
Avec beaucoup de pertes humaines du côté des assaillants.
Exactement. Alors qu'avec le drone, un opérateur situé à l'abri, parfois à des centaines de kilomètres, il peut terroriser et paralyser des quartiers entiers. Mais ce qui retient vraiment l'attention dans les conclusions des enquêteurs onusiens, c'est l'ingénierie logistique qui alimente cette guerre par procuration.
Oui, le rapport de l'ONU expose des réseaux de soutien internationaux d'une sophistication redoutable. Il trace des livraisons d'armement qui transiteraient par les Émirats arabes unis, le Tchad, la Libye, voire la Somalie.
Tout ça pour équiper les forces de soutien rapide.
C'est ça. Il est même fait mention de la présence probable de près de 2000 contractuels de nationalité colombienne sur le terrain.
Des mercenaires, quoi.
Oui. Bien entendu, les diplomaties des pays pointées du doigt nient farouchement la moindre implication. Mais comment de tels circuits mondialisés parviennent-ils à fonctionner en plein cœur d'une zone de guerre sous embargo ?
En fait, la méthode consiste à fragmenter volontairement la chaîne d'approvisionnement militaire pour diluer la responsabilité.
D'accord, donc personne ne vend un drone prêt à l'emploi.
Absolument pas. Le matériel, il transite sous forme de pièces détachées. Souvent, elles sont dissimulées sous des manifestes douaniers de matériel agricole ou d'équipement civil.
Des pièces de tracteurs qui finissent en drones de combat.
C'est exactement ça. Et le financement, lui, il transite par des sociétés écrans enregistrées dans des juridictions ultra-opaques. Quant aux mercenaires, ils sont souvent recrutés via des firmes de sécurité privées au statut superflu.
C'est un vrai labyrinthe.
Un labyrinthe voulu. Si un drone pulvérise une école au Soudan, la chaîne des responsabilités est tellement éclatée qu'elle garantit l'impunité juridique. Le pays de transit ferme les yeux, le financier nie toute implication militaire et le fabricant des pièces plaide l'usage civil détourné.
Cette contestation violente du pouvoir et de l'autorité étatique, elle s'observe également en Somalie. Mais là, on est sur des dynamiques internes très différentes. Récemment, de graves affrontements ont éclaté à la périphérie de Baidoa.
Ouais, des combats intenses.
Et il ne s'agit pas d'une incursion étrangère, hein, sans des combats opposant directement les forces du gouvernement fédéral de Mogadiscio à des milices régionales loyales à Laftagaren, l'ancien président de l'État du Sud-Ouest.
Le bilan est lourd là aussi.
Très lourd. À l'hôpital local de Baye, on a très vite recensé 71 blessés, incluant une quinzaine de femmes, et au moins un civil mort.
Cet affrontement, il met en lumière les fractures institutionnelles profondes du modèle fédéral somalien. Le processus de centralisation du pouvoir initié par la capitale se heurte frontalement aux élites régionaux.
Qui refusent de lâcher leur autonomie.
C'est ça, elles refusent de renoncer à leur autonomie sécuritaire et économique. L'enjeu, c'est vraiment le contrôle physique et politique de provinces stratégiques. C'est une lutte de pouvoir purement interne.
Et c'est là qu'on touche à une interrogation majeure concernant la communication officielle. Très rapidement, le ministère de la Défense somalien a déclaré que le groupe terroriste Al-Shabaab aurait participé au combat aux côtés des milices régionales.
Sans aucune preuve indépendante.
Voilà, aucune source indépendante n'a pu corroborer cette affirmation. C'est un peu comme accuser le pyromane du quartier à chaque fois qu'il y a un incendie, même quand l'origine est manifestement électrique. Est-ce une façon de délégitimer l'adversaire politique, hein, Léo ?
Si l'on relie cela au contexte plus large, le procédé répond à une mécanique de disqualification politique extrêmement classique, mais super dangereuse.
C'est-à-dire ?
Al-Shabaab constitue la menace sécuritaire numéro une en Somalie. En insinuant qu'un adversaire politique local s'allie à cette organisation, le pouvoir central tente de délégitimer immédiatement toute revendication d'autonomie régionale.
Ils activent le bouton de l'urgence absolue.
Exactement. C'est l'activation du levier de l'urgence sécuritaire absolue. Et ce faisant, l'État s'octroie le droit de réprimer l'opposition politique par des moyens militaires lourds, sans s'exposer à la critique internationale.
Avec tous les risques que ça comporte.
Ah oui, le péril de cette stratégie, c'est de brouiller la véritable lutte antiterroriste et de transformer d'anciens alliés régionaux en ennemis définitifs de l'État fédéral.
Cette instrumentalisation des institutions pour neutraliser des opposants résonne particulièrement avec la situation en Tunisie, bien que le champ de bataille soit ici strictement judiciaire.
C'est un autre type d'affrontement.
Oui, les événements récents montrent une juridiction en pleine effervescence. La Cour de cassation, qui est la plus haute instance du pays, vient de confirmer des peines allant jusqu'à 45 ans de détention pour des figures de l'opposition, des avocats de renom et des hommes d'affaires.
45 ans, c'est massif.
40 personnes sont visées par ce dossier pénal tentaculaire, dont 20 par contumace. On trouve un exemple précis avec Nedjib Chebbi, une figure politique historique, qui voit sa peine de 12 ans de prison fermement maintenue.
Alors là, je précise qu'il faut vraiment qu'on garde une stricte neutralité sur l'analyse de cette décision de justice. On ne fait que relater ce que disent les sources.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, deux lectures irréconciliables s'opposent ici. D'un côté, la thèse officielle du gouvernement tunisien s'appuie sur le code pénal. Le pouvoir affirme, de façon catégorique, avoir démantelé un véritable complot organisé de l'intérieur.
Un complot pour renverser le président Kais Saied ?
C'est ça. Le but aurait été d'orchestrer la chute du président Kais Saied et la déstabilisation violente des institutions. Donc, dans cette optique gouvernementale, la sévérité inouïe des peines reflète simplement la gravité de l'atteinte à la sécurité nationale.
D'accord. Mais face à cette version, on a la défense, soutenue par les comités de soutien et les familles des accusés, qui dépeint un appareil judiciaire totalement mis au pas.
Une justice sous influence, selon eux.
Qu'ils considèrent être un simulacre de justice. Pour eux, ça vise à purger méthodiquement le paysage politique tunisien de toute contestation organisée. Et ce qui est marquant, c'est le rôle de la Cour de cassation. En rejetant les pourvoirs, elle verrouille définitivement la procédure sur le sol national.
L'arrêt de la Cour de cassation scelle l'épuisement des voies de recours ordinaires, oui. Ça signe la clôture judiciaire du dossier.
Donc c'est terminé sur le plan légal interne.
Voilà. Et quand le débat politique et l'affrontement pour le pouvoir désertent les urnes et le Parlement pour se solder par des condamnations à plusieurs décennies d'incarcération, on observe une redéfinition drastique de l'arène institutionnelle. En gros, les prétoires remplacent les assemblées.
Et derrière ces luttes féroces pour le contrôle des institutions et des territoires, il y a presque toujours une finalité économique, hein, la captation des formidables richesses du continent.
L'économie reste le nerf de la guerre.
Toujours. Les sources de Radio Tam Tam Africa mettent en exergue une offensive généralisée pour la souveraineté économique. L'exemple du Ghana est frappant. Depuis le 1er septembre 2026, l'organisme public Goldbod a instauré une directive sans précédent.
Sur le raffinage de l'or, oui.
C'est ça. Une fraction significative de l'or extrait sur le territoire doit désormais être obligatoirement raffinée dans le pays avant toute exportation, sachant que le Ghana produit annuellement autour de 185 tonnes d'or pour une valeur avoisinant les 20 milliards de dollars. Les enjeux sont faramineux.
Vraiment faramineux. En fait, le Ghana tente d'inverser le modèle historique d'exportation brute. Cette nouvelle réglementation, elle cible spécifiquement les agrégateurs.
Les intermédiaires, donc.
Ouais, les agrégateurs jouent un rôle de plaque tournante. Ce sont les acheteurs intermédiaires qui collectent l'or brut auprès des milliers de petites exploitations minières artisanales pour ensuite l'exporter vers les marchés internationaux.
Et donc, avec les 4 nouvelles raffineries agréées...
En forçant le raffinage local via ces 4 raffineries, le gouvernement ghanéen oblige ses acteurs à transformer le minerai sur place.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est la différence entre vendre de la farine à perte et décider de cuisiner et de vendre le gâteau fini soi-même sur place.
C'est une excellente comparaison.
Mais par quel mécanisme le simple fait de raffiner l'or modifie-t-il la posture géopolitique du Ghana ?
L'étape du raffinage, c'est la porte d'entrée vers les marchés financiers institutionnels. Un lingot d'or raffiné à 99,99%, ça devient un actif financier mondialement reconnu, certifié, liquide.
Ça a beaucoup plus de poids.
Exactement. En internalisant cette étape de création de valeur, l'État ghanéen accroît drastiquement ses rentrées fiscales, stimule un tissu d'emploi industriel qualifié et fondamentalement renfloue ses propres réserves de change.
Et de bonnes réserves de change, c'est crucial.
Ah oui, des réserves solides offrent à l'État une marge de négociation bien plus forte face aux créanciers extérieurs. Le défi posé par cette loi votée en 2025, ce sera de s'assurer que l'afflux de capitaux irrigue véritablement les communautés minières locales.
Plutôt que de s'évaporer dans les bilans de quelques conglomérats industriels, on est d'accord. Et cette ambition de se réapproprier l'échelle industrielle trouve un écho encore plus retentissant au Nigeria, autour de l'empire Dangote.
Le projet de la raffinerie, oui.
Les marchés financiers bruissent de l'imminente introduction en bourse de la méga-raffinerie d'Aliko Dangote. On parle d'une opération colossale visant à lever 5 milliards de dollars sur les marchés publics.
5 milliards, c'est un chiffre astronomique.
L'objectif industriel, c'est de doubler la capacité de traitement de la raffinerie. Elle passerait à 1,4 million de barils de pétrole par jour, avec, en parallèle, un projet un peu mystérieux d'infrastructure côtière au Kenya.
Une levée de fonds, ou IPO en anglais. D'une telle magnitude, ça propulse le groupe Dangote dans une toute autre dimension du capitalisme mondialisé.
Ils entrent dans la cour des géants.
L'entreprise va ouvrir son capital social à des investisseurs institutionnels mondiaux ainsi qu'au grand public. Vu l'ampleur de ses infrastructures, qui s'apparentent parfois à la logistique d'un véritable État, le groupe doit se soumettre aux exigences de transparence des marchés boursiers.
Toutefois, l'article met fermement en garde les investisseurs particuliers, ceux qu'on appelle les petits porteurs. Acheter des actions de ce géant du pétrole n'est pas sans risque.
Les marchés de capitaux exigent une vigilance extrême, surtout pour les particuliers. Lors d'une IPO de 5 milliards, le piège pour le petit investisseur réside dans l'asymétrie d'informations.
Ils n'ont pas accès aux mêmes données que les pros.
Voilà. Les analystes devront évaluer si la valorisation proposée reflète la rentabilité actuelle de l'usine ou si elle spécule sur des rendements futurs hyper incertains.
C'est un pari, en quelque sorte.
Et puis, il faut auditer la structure de la dette contractée durant les travaux titanesques de la raffinerie, comprendre qui gardera la majorité des droits de vote au conseil d'administration et surtout s'assurer que cette levée de fonds servira réellement l'expansion industrielle plutôt qu'à rembourser discrètement des créanciers de la première heure.
Ces gigantesques manœuvres macroéconomiques contrastent douloureusement avec le quotidien des producteurs de base. On l'observe très bien en Côte d'Ivoire.
Avec le cacao.
Oui, le maintien du prix garanti du cacao pour la saison 2026-2027 illustre parfaitement les limites de cette souveraineté. L'État a fixé ce prix à 1200 francs CFA le kilo. Or, on se souvient qu'au printemps précédent, sous l'effet de pénurie mondiale, les cours internationaux s'étaient envolés jusqu'à 2800 francs CFA, avant de chuter lourdement en mars.
Ça avait été des montagnes russes.
Beaucoup d'agriculteurs ivoiriens espéraient une redistribution de ces profits historiques et ils constatent un maintien pur et simple du tarif initial. Mais si on contrôle la matière première, pourquoi les agriculteurs récoltent-ils des miettes pendant que l'industrie du chocolat s'offre le festin ?
Le dysfonctionnement, il réside dans la mécanique même de la chaîne d'approvisionnement mondiale du chocolat. Le prix garanti de 1200 francs CFA au port d'Abidjan, ça représente le chiffre d'affaires brut. Ce n'est absolument pas le bénéfice du cultivateur.
Il y a plein de frais à déduire, c'est ça, hein ?
Plein de frais. À partir de ce montant, l'agriculteur doit absorber l'inflation de tous les coûts de production. Il faut payer le transport depuis des parcelles souvent très enclavées, acheter des intrants agricoles de plus en plus onéreux et bien sûr rémunérer la main-d'œuvre journalière.
Donc à la fin, il ne reste pas grand-chose.
Le revenu net dégagé est fréquemment marginal, oui.
La souveraineté agricole est donc un vrai mirage si on ne maîtrise pas la transformation.
Le rapport de force est structurellement asymétrique. Les multinationales de l'agroalimentaire, situées en aval, détiennent les monopoles de la torréfaction, du marketing et de la distribution internationale.
Et c'est là que se fait l'argent.
C'est exactement là. Ce sont ces étapes qui concentrent la quasi-totalité de la rentabilité. Un État qui fixe un prix officiel, il démontre une forme de souveraineté administrative, certes.
Mais c'est insuffisant.
Tant que l'écosystème global ne revalorise pas massivement le premier maillon indispensable de la chaîne, les planteurs, les producteurs, restent confinés dans une trappe de précarité.
L'incapacité des retombées économiques à ruisseler vers les infrastructures essentielles conduit à un délitement du contrat social. L'actualité kényane en est une illustration poignante. À l'heure où nous parlons, la grève des infirmiers traverse son 37e jour.
37 jours de grève, c'est énorme pour le système de santé.
À Nairobi, les manifestations du personnel soignant dénoncent le non-respect d'accords salariaux et de conditions de travail qui ont été ratifiés il y a près de 10 ans, en 2017.
La mécanique de ce conflit au Kenya, elle trouve son origine dans l'ingénierie administrative de la décentralisation, en fait.
C'est un problème d'organisation étatique.
Oui. Le système de santé a été transféré au gouvernement des comtés régionaux. Mais en même temps, les plafonds budgétaires et la régulation des rémunérations dépendent toujours d'une commission nationale des salaires.
Ah, je vois. Donc personne ne veut payer.
Ce chevauchement de compétences crée une paralysie institutionnelle totale où chaque entité rejette la responsabilité financière sur l'autre. Ça bloque tout issu négocié.
Et pendant que les tractations s'enlisent, les dommages collatéraux s'accumulent de manière invisible. Sans hôpitaux publics fonctionnels, des femmes enceintes et des patients souffrant de pathologies chroniques sont laissés à l'abandon.
Il n'y a même pas de bilan de décès indépendant à ce jour.
C'est ça. L'État moderne déploie d'énormes moyens pour sa sécurité militaire ou pour attirer des investisseurs étrangers, mais il semble totalement démuni pour financer le soin quotidien.
Cela soulève une question importante sur la façon dont l'allocation des budgets reflète brutalement les hiérarchies politiques.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Les bureaucraties étatiques se révèlent d'une efficacité redoutable pour lever des impôts, gérer des concessions minières ou bâtir des infrastructures de sécurité. En revanche, les budgets liés aux soins, la santé publique, l'éducation, la protection sociale servent trop souvent de variables d'ajustement face à l'endettement public.
Attendez, je veux juste faire une pause ici. Parce que cette asymétrie entre la surpuissance d'un système et son incapacité à protéger les plus vulnérables, ça nous ramène à notre toute première observation.
Le drame migratoire.
Oui. On a vu qu'on est capable de traquer Ebola via des données mobiles anonymisées, de raffiner de l'or au gramme près, de préparer des IPO à 5 milliards. Mais on est toujours incapable de retracer 83 vies humaines perdues en mer.
C'est la terrible réalité.
Au large des îles Canaries, le drame de cette embarcation partie de Gambie a mis fin à une dérive insoutenable de 27 jours dans l'immensité de l'Atlantique. Les secours espagnols ont ramené à terre 41 survivants exsangues, dont 3 dans un état critique.
Et ils n'ont même pas pu récupérer tous les corps.
Non, ils ont aperçu 5 corps à la surface, impossible à repêcher en raison de la houle. Mais le vrai choc, il vient du décompte macabre fait par l'ONG Caminando Fronteras sur la base des témoignages des rescapés.
Ce qu'ils racontent est effroyable.
Ils estiment que 83 personnes, dont des femmes et un bébé, ont succombé de faim et de soif durant la traversée, disparaissant purement et simplement dans l'océan.
Le contraste avec les modèles épidémiologiques congolais étudiés plus tôt prend ici tout son sens tragique.
C'est incompréhensible.
Notre époque déploie des satellites capables d'observer les déplacements millimétriques de troupes ou de modéliser des réseaux téléphoniques entiers. Mais elle accepte l'invisibilité totale des routes migratoires océaniques.
C'est un aveuglement volontaire.
Complètement. L'absence de moyens de recherche et de sauvetage adéquats n'est pas une défaillance technique, c'est le résultat d'un choix politique délibéré concernant la valeur accordée à ces vies.
Et ça a des conséquences dévastatrices pour ceux qui restent.
L'anonymat de ces 83 disparitions empêche les familles d'accomplir leur processus de deuil. Ça ajoute une violence psychologique inouïe à la tragédie physique. L'importance de l'identification est capitale.
Justement, cette exigence de vérité et de réparation face à la violence de l'État, elle traverse les océans, mais elle survit aussi à l'épreuve du temps. En Afrique du Sud, un dossier judiciaire hors norme refait surface en ce moment.
Oui, 60 ans après.
Plus de 60 ans après la tragédie du 21 mars 1960, le tristement célèbre massacre de Sharpeville où les forces de l'ordre du régime de l'apartheid ont abattu au moins 69 civils non armés, eh bien une action collective est intentée en 2026 par les survivants et leurs descendants contre l'État sud-africain.
L'architecture juridique de cette plainte est particulièrement éclairante. Les plaignants s'attaquent au cœur même du système d'impunité légale qui avait été conçu par l'ancien régime ségrégationniste.
Comment ça fonctionnait à l'époque ?
Au lendemain du massacre de Sharpeville, le gouvernement de l'apartheid avait hâtivement promulgué une loi d'indemnisation en 1961.
Pour faire taire les critiques.
Exactement. Sous des apparences de réparation, ce dispositif légal visait exclusivement à interdire aux victimes de poursuivre l'État devant les tribunaux civils pour exiger de véritables compensations à la hauteur du préjudice.
Sauf que le régime ségrégationniste s'était fondu depuis longtemps. La commission Vérité et Réconciliation avait d'ailleurs établi des recommandations précises d'indemnisation, non litigées. Pourquoi les familles de Sharpeville doivent-elles retourner devant les juges aujourd'hui ?
Parce que le fond du problème, c'est que les promesses financières issues des processus de justice transitionnelle n'ont jamais été intégralement honorées par le nouvel État sud-africain.
Les réparations ne sont jamais arrivées.
C'est ça. Il y a une distinction fondamentale entre la souveraineté mémorielle et la justice matérielle. L'Afrique du Sud a érigé des mémoriaux, inscrit la date au calendrier des droits humains et prononcé tous les discours officiels de contrition.
La mémoire est reconnue ?
La mémoire est reconnue, oui, mais la reconnaissance symbolique d'un crime d'État ne suffit absolument pas à compenser les spoliations économiques et les décennies de marginalisation des familles touchées. L'action collective exige de passer de la commémoration à la véritable réparation, sonnante et trébuchante.
Bon. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces dossiers examinés aujourd'hui,
qu'est-ce que l'on doit en déduire sur l'état des dynamiques de pouvoir sur le continent ?
C'est vaste comme question.
Oui, mais on voit les États qui tentent de reprendre la main sur la technologie militaire au Soudan, qui s'arrogent le monopole du raffinage de l'or au Ghana, qui restructurent les marchés pétroliers au Nigeria, tout en affrontant une myriade de contestations populaires et judiciaires internes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ?
L'observation majeure de notre analyse, c'est l'évolution exponentielle des capacités d'intervention de l'appareil d'État.
Les États deviennent plus forts.
Qu'il s'agisse de modélisation de données de santé, de déploiement de drones, d'ingénierie financière de pointe ou d'utilisation du système pénal, la machinerie gouvernementale se perfectionne sans arrêt. Les États se dotent de tous les attributs modernes d'une souveraineté ultra-musclée.
Mais il y a un mais.
Oui, cette souveraineté, elle demeure hémiplégique si elle ne se concentre que sur la sécurisation des capitaux et du pouvoir central, en délaissant la justice sociale, la santé publique ou la résolution matérielle des traumatismes historiques.
Le fossé entre les priorités de l'État et celles des populations semble vraiment plus large que jamais.
Il y a cependant une perspective d'évolution qui se dessine en filigrane dans les sources d'aujourd'hui, notamment à travers l'exemple de l'action collective en Afrique du Sud ou des mouvements sociaux au Kenya.
Un espoir pour les sociétés civiles ?
En quelque sorte, oui. Si les gouvernements ont le monopole actuel des technologies de contrôle, on peut se demander si la prochaine décennie ne verra pas les sociétés civiles s'approprier ces mêmes instruments de la modernité.
Ah, utiliser les outils de l'État contre lui-même ?
C'est l'idée. L'exploitation stratégique de l'open data. Pour pister les fonds publics, l'organisation de recours judiciaires collectifs transnationaux ou l'utilisation d'outils de transparence financière décentralisée, tout ça pourrait devenir les nouvelles armes des citoyens.
C'est une pensée super provocatrice pour clôturer ce dossier.
L'enjeu futur, au final, ce ne sera peut-être plus de savoir quel État contrôle les réserves d'or ou le ciel avec des drones. Ce sera de voir comment les populations utiliseront l'architecture juridique et technologique mondiale pour contraindre enfin leur gouvernement à s'acquitter de leurs dettes économiques, sociales et historiques.